Bonjour à tous, embarquement immédiat pour l'émission Le Débrief qui débute à l'instant à l'antenne de CILS FM 107,9. C'est Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. Merci à tous d'être à l'écoute. C'est actuellement 1 degré tout près du point de congélation au centre-ville de Victoria à 16h et des poussières. Le vent s'est calmé fort heureusement, mais ça reste froid. On aura moins 7 en soirée et la nuit prochaine. On y reviendra dans les détails dans quelques minutes après les bulletins de Denis Lépine. En fin d'émission, vers 16h40, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec le jazzman montréalais Rémi Bolduc, dont la tournée hommage à Dave Brubeck sera de passage à l'Université de Victoria le samedi 21 janvier. Restez à l'écoute. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. L'Office national de l'énergie annonce l'affectation d'un comité d'audience pour examiner les projets Énergie Est et Réseau Principal Est. Le nouveau comité devra déterminer comment se déroulera le processus d'examen. L'Office a souligné qu'il reste encore des détails à confirmer, mais que les Canadiennes et Canadiens peuvent avoir l'assurance que l'audience relative à Énergie Est sera juste, transparente, opportune et accessible. Le projet Énergie Est est d'une longueur prévue de 4500 km et pourrait transporter chaque jour 1,1 million de barils de pétrole brut de l'Alberta et de la Saskatchewan vers des raffineries de l'Est du Canada. Une délégation canadienne est en Chine actuellement pour promouvoir la culture et les arts canadiens. Des rencontres avec plusieurs créateurs canadiens qui travaillent déjà en Chine sont à l'agenda. La ministre de la Culture, Mélanie Joly, s'entretiendra aussi avec des représentants du gouvernement chinois et du milieu des arts pour discuter des affaires culturelles entre les deux pays. Des représentants de l'Office national du film de Téléfilm Canada et du Musée des sciences et de la technologie font partie de la délégation. Alors que la période de production des déclarations de revenus approche à grands pas, l'Agence du revenu du Canada annonce plusieurs changements à ses services et concernant aussi les prestations et les crédits. L'organisme indique que des changements ont été apportés aux allocations canadiennes pour enfants et pour les déductions pour les habitants en régions éloignées. L'agence tient aussi à préciser que le service ADC Express permet maintenant l'envoi d'un message instantané du résultat de votre cotisation. L'agence invite les Canadiennes et Canadiens à visiter son site web pour de plus amples détails. Une délégation canadienne se rendra à Vimy en France en avril prochain pour souligner le 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. La délégation officielle du gouvernement du Canada assistera aux cérémonies et aux événements qui se dérouleront pendant la semaine du 5 au 12 avril. Ancien combattant Canada a indiqué que le ministère dévoilera les détails des activités sur son site web. Remaniement ministériel à Ottawa. Parmi les changements, notons que François-Philippe Champagne prendra le relais de Chrystia Freeland au commerce international et cette dernière prend les rênes du ministère des Affaires étrangères. Pour sa part, Marianne Maychuk quitte le ministère de l'Emploi et elle sera remplacée par Patty Adu. Mentionnons aussi que la ministre des Institutions démocratiques, Mariam Monsef, quitte son poste au profit de la condition féminine. Audience mouvementée à Washington concernant Jeff Sessions, choisi par Donald Trump pour diriger le ministère de la Justice. Le sénateur de l'Alabama a nié de vieilles accusations de racisme. Il s'est dit également défavorable à toute forme de torture. De plus, deux hommes déguisés en membres du Ku Klux Klan ont été expulsés de la salle. Une femme a même crié « Empêchez ces porcs fascistes de prendre le pouvoir » en faisant référence à l'administration Trump. D'autres manifestants sont venus interrompre les échanges. C'est le 16 janvier prochain que le CRTC tiendra des audiences publiques sur l'établissement d'un cadre réglementaire pour les services 911 de prochaine génération au Canada. L'audience aura lieu à Ottawa. Le conseil a tenu à préciser que les conclusions qu'il tirera se limiteront aux questions qui relèvent de sa compétence au terme de la loi sur les télécommunications. Ottawa sollicite l'appui de l'appel de propositions d'innovation de recherche et développement pour la Défense Canada. Les propositions pourront être présentées jusqu'en fin de journée. Les projets auront pour mission d'épauler la défense de la souveraineté du Canada. Il sera question également de la protection de la vie et des moyens de subsistance des Canadiennes et Canadiens au pays et à l'étranger. Au sport au hockey, Ligue nationale, victoire de Nashville en prolongation contre Vancouver 2-1 et San Jose a défait Edmonton 5-3. Ce soir notamment, Montréal sera à Winnipeg, San Jose à Calgary et match très attendu à Washington entre les Capitals et les Penguins de Pittsburgh. NBA maintenant, victoire de Toronto 114-106 contre Boston. Au baseball majeur, eh bien la machine à rumeurs est repartie de plus belle dans le dossier de José Bautista. Selon le site internet du baseball majeur, les Twins du Minnesota seraient maintenant intéressés au voltigeur de 36 ans et une rencontre aurait même eu lieu entre Bautista et les Twins. Selon le baseball majeur, Bautista serait enclin à une entente d'une saison pour à nouveau intégrer le marché des joueurs autonomes l'an prochain. Et la FIFA a confirmé que la Coupe du monde de soccer de 2026 verra 48 nations batailler pour le titre, soit 16 de plus qu'au Brésil en 2014.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9 à 16h06. Nous allons nous tourner vers la météo. C'est 1 degré actuellement au centre-ville de Victoria. Ça reste froid au cours des prochaines heures. Le mercure descendra à moins 7 cette nuit. Demain, on se réveille avec le soleil, maximum de 1 degré en cours de journée. Et ça reste froid ainsi au cours des prochains jours. La pluie apparaîtra samedi et dimanche, donc un week-end pluvieux, avec des probabilités d'averse de 30% et de 70% samedi et dimanche respectivement. Donc actuellement, on n'a aucune précipitation dans le sud de l'île de Vancouver. C'est 1 degré, je le disais, à Victoria, 1 degré à Vancouver et 0 à Nanaimo. Nous allons à présent nous rendre aux nouvelles du bulletin de l'ONU et on se retrouve dans une dizaine de minutes pour les nouvelles provinciales. À tout de suite.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal d'ONU Info. Avec à la une l'examen par le Conseil de sécurité de la situation en RDC, la condamnation par l'ONU des dernières attaques terroristes en Afghanistan, l'inquiétude exprimée par l'OIM quant au sort des milliers de migrants piégés par le froid en Europe et en Méditerranée orientale. Et puis retour dans le dossier avec la Banque mondiale sur les perspectives économiques en 2017. Le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix a signalé ce mercredi devant le Conseil de sécurité que si la signature le 31 décembre à Kinshasa de l'accord politique sur la tenue des élections à RDC a permis de décrisper une situation explosive, sa mise en œuvre reste délicate. Hervé Latsous a indiqué que plusieurs acteurs de l'opposition n'ont toujours pas adhéré à l'accord et que la majorité présidentielle a envoyé des signaux assez inquiétants. Il a aussi signalé qu'un appui notable sera nécessaire pour assurer la tenue des élections en décembre 2017. Sentiment partagé par le président de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui a facilité la signature de l'accord. On écoute Monseigneur Marcel Outembi.
Il est urgent de préserver et de consolider la paix civile en cette période, d'assurer une gestion consensuelle et responsable des institutions avant et pendant les élections, de mobiliser des moyens conséquents pour répondre aux besoins sociaux indispensables et pour l'organisation des élections. Les parties prenantes à l'accord du centre interdiocésain de Kinshasa demandent à la communauté internationale d'assister la Commission électorale nationale indépendante par des moyens logistiques, financiers et techniques pour une bonne réalisation des opérations électorales. La CENCO demande au gouvernement congolais et à la communauté internationale de prendre des mesures de décrispation sociopolitique appropriées qui tiennent compte du droit et de l'humain.
L'ONU a condamné mardi soir des attaques terroristes commises près du Parlement afghan à Kaboul et près de la résidence du gouverneur de la province de Kandahar dans le sud de l'Afghanistan. Des attaques méprisables qui ont tué des dizaines de personnes, a souligné le porte-parole du secrétaire général dans une déclaration à la presse. Des détails avec Florence Westgaard.
Les attaques perpétrées mardi à Kaboul puis à Kandahar ont tué des dizaines de personnes et fait de nombreux blessés. Parmi ces derniers figurent l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Afghanistan et le gouverneur de Kandahar. Des attaques fermement condamnées par les Nations unies qui ont exprimé leurs condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. L'ONU exprime sa solidarité avec le peuple et les gouvernements de l'Afghanistan et des Émirats arabes unis et demande que les responsables des attaques soient traduits en justice, a déclaré le porte-parole porte-parole, avant d'ajouter que les attaques indiscriminées contre des civils, y compris des diplomates, sont des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire et ne peuvent être justifiées. Selon la presse, près de 30 personnes ont été tuées et 80 autres blessées dans l'attaque près du Parlement afghan à Kaboul. L'attaque à Kandahar a tué au moins 11 personnes et blessé 14 autres.
L'OIM exprime son inquiétude pour les milliers de migrants, demandeurs d'asile et d'autres personnes face aux conditions hivernales glaciales qui sévissent à travers l'Europe et en Méditerranée orientale. En effet, la région a été touchée par des chutes de neige les plus fortes et les températures les plus froides depuis des années. Au moins 6 migrants sont morts en Bulgarie, en Grèce et au Liban et des dizaines de milliers seraient potentiellement menacés. Les explications de Leonard Doyle, porte-parole de l'agence de l'ONU pour les migrations.
Ce qui nous inquiète, c'est que les îles de la Grèce, qui ont beaucoup de neige, la Turquie et les migrants qui sont coincés sur la route, soit en Macédonie, soit en Bulgarie, dans les pays de l'Europe de l'Est. Ici et ailleurs, il y a des migrants qui sont là, ils n'ont pas assez d'abri. Il y a des enfants qui sont malades maintenant. Il y a des gens très vulnérables qui sont en plein air dans les conditions pénibles. Ce n'est pas tellement que ce sont des records, c'est assez normal, mais le fait simple, c'est qu'on n'avait pas ces numéros de migrants en plein air l'année dernière. Et surtout en Turquie, normalement, on n'a pas tellement de neige. Il faut qu'on fasse quelque chose de meilleur pour, avec shelter, comme on dit, avec abri et assistance urgente.
Enfin, le Programme alimentaire mondial annonce avoir lancé en décembre un projet novateur pour aider les réfugiés en Turquie qui sont hors des camps à couvrir leurs besoins essentiels. Ainsi, le PAM collabore avec ECHO, le service de l'aide humanitaire de la protection civile de la Commission européenne, le Croissant Rouge et le gouvernement turc pour apporter un soutien financier aux familles les plus démunies. Pour rappel, la Turquie accueille la plus grande population de réfugiés au monde, soit environ 3 millions de personnes. Jonathan Campbell, directeur adjoint du PAM à Ankara.
Ce qu'on est en train de faire, c'est d'intégrer des réfugiés dans les mêmes systèmes d'assistance sociale qui existent pour les Turcs pauvres ou vulnérables ici. Donc, ils sont identifiés par le même moyen à travers les centres de travail social qui sont partout dans le pays. Et après, on les assiste avec une carte débit. Et là, ils peuvent soit utiliser dans les magasins comme une carte débit ou ils peuvent aller chez les bancomates pour retirer de l'argent. Et avec cet argent, peuvent utiliser soit pour payer le loyer, soit pour les frais médicaux, pour acheter des vivres à manger, pour payer l'éducation pour les enfants et tout ça. Ils reçoivent par personne, par mois, son lire turc, qui est dans les environs de 28 dollars.
Retour sur l'actualité, selon un rapport de la Banque mondiale, la croissance économique mondiale devrait atteindre 2,7% en 2017, après le creux de l'après-crise l'an passé. Cette légère augmentation s'explique par la diminution des obstacles à l'activité dans les marchés émergents et les économies en développement, exportateurs de produits de base, et à une demande restant robuste dans les pays importateurs. Toutefois, des incertitudes demeurent. Les explications de Mark Stocker, il est économiste à la Banque mondiale, au micro d'Isabelle Dupuis.
Le tassement de l'investissement dans les pays émergents et les économies en développement est une source de soucis pour la Banque mondiale et pour les perspectives économiques de ces pays. Ce que nous observons, c'est que la croissance des investissements a chuté de 10% en 2010 à moins de 3,5% en 2015 et 2016. Alors ce ralentissement est lié à un nombre de facteurs. C'est une correction des niveaux élevés de croissance d'avant-crise, mais aussi c'est le reflet des obstacles de croissance dans certains pays émergents pour le moment qui sont particulièrement puissants. D'une part, la baisse des matières première depuis ces dernières années qui a freiné l'activité dans les pays exportateurs de pétrole et surtout l'investissement. On a aussi le recul de l'investissement étranger direct dans les pays importateurs de matières premières. On a une augmentation de la dette privée dans un grand nombre de pays qui est aussi un frein à l'investissement pour le moment. Et puis on a aussi une augmentation des risques politiques et de l'incertitude liée à l'évolution des politiques économiques dans un certain nombre de grandes économies, qu'elles soient avancées ou émergentes.
Pouvez-vous nous donner une idée de l'impact direct d'un tel ralentissement, par exemple, dans la vie des citoyens? Quelles sont les inquiétudes?
L'inquiétude, évidemment, c'est que cette faiblesse de l'investissement se répercute dans les perspectives de croissance de ces pays. Ça limite l'accumulation du capital physique, le capital humain, et donc pourrait peser sur les perspectives à moyen et long terme. Et donc c'est important, surtout aujourd'hui où nous voyons une amélioration graduelle des perspectives mondiales, que les pays émergents utilisent des conditions extérieures plus favorables pour accroître l'investissement public dans les infrastructures et aussi dans le capital humain.
Y a-t-il d'autres recommandations de la Banque mondiale à moyen et à long terme pour remédier la situation?
ce qu'on observe en général, c'est que les pays qui implémentent des réformes structurelles ont tendance à voir l'investissement et la croissance s'accélérer dans les années qui suivent. Donc d'une manière générale, les réformes sont importantes pour la croissance et pour l'investissement. Maintenant, il y a aussi un contexte macroéconomique qui doit être favorable, avec des politiques fiscales soutenables, avec des politiques monétaires qui assurent la stabilité des prix et de l'évolution des changes. Une visibilité des acteurs privés quand ils décident d'investir dans une économie, et donc aussi un contexte régulatoire qui est favorable et prévisible.
Et qu'en est-il des pays développés ? Quel peut être leur rôle pour inverser cette tendance ?
Dans les pays développés, ce qu'on observe, c'est que la faiblesse de l'investissement qu'on a vu après crise était surtout liée à la faiblesse de leur croissance. Et on voit aujourd'hui que cette croissance a tendance, du moins ce sont nos attentes, a tendance à repartir en 2017, après une année 2016 qui était particulièrement difficile. On voit notamment que la croissance aux États-Unis est en train de se relever. Donc ça, c'est encourageant pour l'économie américaine, mais aussi pour les partenaires commerciaux des États-Unis. Ils sont nombreux. Près d'un quart des pays dans le monde ont comme marché d'exportation principal les États-Unis. Donc ce qui se passe aux États-Unis un impact important pour le reste du monde. Cette amélioration de la croissance que nous attendons est indépendante des changements de politique. Nous envisageons un certain nombre de scénarios autour de notre perspective de base, où par exemple les États-Unis implémenteraient des mesures fiscales plus accommodantes qui soutiendraient la croissance et également l'investissement. Mais évidemment, il y a aussi des changements de politique qui sont peut-être un peu plus inquiétants, liés notamment à la possibilité d'une politique commerciale un peu plus restrictive ou protectionniste qui pourrait affecter négativement les États-Unis et le reste du monde. Les politiques économiques dans d'autres pays avancés sont également en phase de changement. Donc ça crée aussi un élément d'incertitude, je pense notamment à l'Europe. Et ces éléments d'incertitude peuvent peser un petit peu sur les perspectives d'investissement en Europe et globalement. Et donc lever ces incertitudes serait un facteur important de soutien à la reprise.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info, à retrouver sur l'internet et les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
h 17 à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. Vous écoutez l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien en fin de journée. On va se transporter vers les nouvelles provinciales après le radiojournal de l'ONU, donc les nouvelles de Colombie-Britannique. On commence tout de suite avec une nouvelle aperçue dans le portail de Victoria News, vicnews.com, qui nous apprend que le nombre de suicides de premiers répondants en Colombie-Britannique est en forte hausse depuis quelques années. On a déploré 19 suicides parmi les premiers répondants, donc dans le secteur de la santé, ambulanciers, pompiers, policiers, cette année en Colombie-Britannique. Alors, il s'agit de 7 ambulanciers, 7 officiers de police, 4 pompiers ainsi que un agent correctionnel qui ont mis fin à leur jour cette année dans la province. Cet article de Victoria News qui est écrit par Pamela Roth nous indique que la province de Colombie-Britannique a le taux de suicide le plus élevé de la Fédération canadienne chez les premiers répondants. Donc une question de santé publique assez inquiétante et qui n'est pas sans lien sans doute avec la crise des surdoses qui sévit actuellement dans la province. Donc on se transporte maintenant dans le portail de Radio-Canada. Le Canadien Pacifique est accusé d'avoir laissé un train sans frein à main à Revelstoke, dans l'intérieur de la province. Le Canadien Pacifique et deux anciens employés de la compagnie ferroviaire sont accusés d'avoir laissé un train dont certains wagons contenaient des produits dangereux sans frein à main sur une descente aux abords de Revelstoke. L'incident présumé avait fait les manchettes après que Transport Canada eut investi les locaux du CP, du Canadien Pacifique, donc en 2015 à la recherche de preuves. Donc ceux qui connaissent la tragédie de Lac-Mégantic au Québec survenu en 2013 savent à quel point un train laissé sans frein à main en haut d'une pente peut être effectivement très très dangereux pour la population environnante. Et toujours dans le portail de Radio-Canada, la Cour d'appel maintient la condamnation pour parjure de Benjamin Robinson. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a rejeté mercredi la demande de Benjamin Robinson, un ancien agent de la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, accusé de parjure dans l'affaire Robert Jikansky. Benjamin Robinson cherchait à faire annuler sa condamnation pour cette affaire. La Cour maintient ainsi la décision de l'instance inférieure rendue en mars 2015. le policier déchu avait été condamné en juillet 2015 à purger une peine de 2 ans moins un jour de prison. Benjamin Robinson est l'un des 4 agents qui avait été accusé de parjure dans ce dossier. On se rappellera que la victime, donc Robert Dzikanski, était un immigrant polonais. Il a perdu la vie après avoir reçu de multiples décharges de pistolets électriques tirés par des agents de la GRC à l'aéroport de Vancouver en 2007. Donc dans cette affaire, 2 policiers avaient été acquittés et le troisième, Quissy Millington, avait été condamné à 30 mois de prison. L'article de Radio-Canada note en outre qu'en 2012, le policier Benjamin Robinson a été reconnu coupable d'entrave à la justice après avoir été impliqué dans un accident ayant coûté la vie à un motocycliste. Il a quitté la GRC en 2012. Du côté anglophone de Radio-Canada, BC losing jobs everywhere except Vancouver and Victoria. Donc le portrait de l'emploi dans la province est encourageant, sauf que cette situation ne concerne surtout que la métropole et la ville de Victoria. La situation de l'emploi est assez difficile ailleurs dans la province, c'est ce que nous apprend cet article de CBC qui fait état d'un nouveau rapport rendu public cette semaine. Donc les gains d'emploi dans la province sont réalisés principalement dans les 2 grands centres urbains que sont Vancouver et Victoria au cours des dernières années. Alors, il y a d'importantes disparités régionales dans le secteur de l'emploi en Colombie-Britannique. Toujours dans le portail de CBC, on apprend qu'un adolescent qui avait menacé ses camarades de perpétrer une fusillade dans son école, ça c'est du côté de Nelson, il a été condamné à 3 ans de probation, 3 ans de mise à l'épreuve et sa peine comprend le temps qu'il a passé jusqu'à présent derrière les barreaux. Donc il s'agit de Denver Skay, un adolescent de 18 ans qui avait proféré des menaces contre ses camarades et sa sentence a été rendue aujourd'hui et donc c'est du côté de Nelson. Et toujours en restant dans le portail de CBC, à propos de ces nouveaux navires qu'emploiera BC Ferries prochainement, l'un d'eux est arrivé chez nous après un long voyage, le BC Salish Orca, le BC Ferries Salish Orca, c'est le nom du navire, est arrivé après être parti de Pologne il y a plus de 2 mois et avoir traversé le canal de Panama. Il a remonté sur la côte ouest américaine et est arrivé dans les eaux du littoral britanno-colombien il y a quelques jours. Donc il va aller se stationner maintenant au port de Richmond pour subir des inspections et la formation du personnel sera entreprise prochainement. Donc c'est un nouveau navire qui s'ajoute à la flotte de BC Ferries. Il sera en marche, en fonction au cours du printemps. Alors on s'arrête quelques minutes en musique, on fait une petite pause avec l'ensemble de jazz Rémi Bolduc. Restez à l'écoute si vous aimez cette musique. Rémi Bolduc est en interview avec moi en fin d'émission. En attendant, on écoute la pièce très célèbre Take Five, une pièce de Dave Brubeck que reprend ici Rémi Bolduc avec son ensemble. À tout de suite. Thank you. Rémi Bolduc au saxophone alto, François Bourassa au piano. Vous écoutez le Rémi Bolduc Jazz Ensemble qui sera à Victoria, à l'Université de Victoria, le samedi 21 janvier. J'aurai Rémi Bolduc en interview un petit peu plus tard dans l'émission vers 16h45. On va passer aux nouvelles du jour dans quelques instants. On va commencer par écarter une nouvelle qui a fait grand bruit. Donald Trump dénonce les fausses informations le liant à Moscou. Alors, c'est un petit peu de l'info spectacle. On va passer très rapidement là-dessus. La brève de l'agence France-Presse donne le topo. On va simplement lire les premières lignes. Le président désigné Donald Trump a laissé éclater sa colère mercredi contre les fausses informations diffusées par des médias sur d'éventuels liens secrets avec Moscou, tout en admettant le rôle de Vladimir Poutine dans certains piratages. Alors, évidemment, c'est dans l'ensemble des médias. Le mandat du débrief, c'est un petit peu d'aller derrière l'information spectacle, mais c'était un petit peu le passage obligé. C'est la nouvelle du jour, en quelque sorte. On va aller dans les colonnes de la presse canadienne à présent. Justin Trudeau qui réagit aux critiques qui ont été formulées après son séjour du Nouvel An dans l'île d'Aga Khan. Le titre de cette dépêche de la presse canadienne, l'Aga Khan est un ami de la famille, plaide Justin Trudeau. Le premier ministre Justin Trudeau s'est dit impatient mardi de répondre aux éventuelles questions de la commissaire à l'éthique Mary Dawson sur ses vacances de Noël passées sur une île des Caraïbes appartenant au riche prince Aga Khan. Le premier ministre et sa famille ont passé les vacances des fêtes dans une retraite privé du richissime chef spirituel sur l'île de Belcaise, aux Bahamas. Le candidat à la direction du Parti conservateur, Andrew Scheer, a demandé à la commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique, Mary Dawson, de se pencher sur cette question. Le député veut savoir si Mary Dawson juge approprié pour un premier ministre du Canada d'accepter ainsi l'hospitalité d'un homme dont la fondation reçoit des contributions de la part du gouvernement. La fondation Aga Khan a reçu des dizaines de millions de dollars du gouvernement canadien pour divers projets de développement international dans le monde, indique cet article de la presse canadienne. En conférence de presse à Ottawa mardi, à l'issue du remaniement ministériel, le premier ministre Justin Trudeau a qualifié ce séjour aux Bahamas de vacances familiales avec un vieil ami de la famille et s'est dit impatient d'en discuter avec la commissaire Mary Dawson. Autrement, ailleurs dans l'actualité, dans les colonnes de l'agence France-Presse, Volkswagen plaide coupable de fraude et paie 4,3 milliards de dollars d'amende. Volkswagen a accepté de plaider coupable de fraude et de verser des pénalités supplémentaires de 4,3 milliards de dollars aux États-Unis pour clore les poursuites pénales liées aux moteurs diesel truqués, a annoncé mercredi le département de la justice. Ce mélange de pénalités civiles et criminelles permettra au constructeur allemand d'échapper à un procès et vient s'ajouter aux 17,5 milliards de dollars que le géant de l'automobile s'est engagé à débourser pour couvrir les coûts du scandale qui avait éclaté en septembre 2015. Sur le portail de Radio-Canada, à propos de réconciliation avec les peuples autochtones, le Congrès des peuples autochtones revendique sa place. Le Congrès des peuples autochtones, le CPA, qui représente les intérêts des Indiens inscrits ou non inscrits vivant hors des réserves, des Métis et de certains Inuits, a livré un message très clair au gouvernement de Justin Trudeau. Si celui-ci est sérieux dans son intention de favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones, il doit inclure le CPA dans ses discussions. Au terme d'une rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires autochtones du Nord, du Canada, Caroline Bennett, mardi, le chef national du Congrès national des Autochtones, Robert Bertrand, a parlé de discussions ouvertes et très franches. Alors, une récente exclusion de cet organisme unissant des milliers d'Autochtones avait causé des remous et le CPA doit être à la table lorsqu'on discute des enjeux qui touchent ses membres, a affirmé son chef. Vous trouverez cette nouvelle dans le portail de Radio-Canada, dans l'espace autochtone. Réconciliation, le Congrès des peuples autochtones revendique sa place. Sinon, dans la presse canadienne, côté anglophone, on apprend le suicide récent de deux jeunes filles de 12 ans dans une réserve du nord de l'Ontario. Il s'agit de la nation Nishwabe-Aski. Le chef Alvin Fiddler a lancé un appel au premier ministre Justin Trudeau. C'est une communauté d'environ 360 personnes qui est localisée environ 600 km au nord de Thunder Bay en Ontario. Nouveau suicide dans cette communauté qui en a malheureusement déploré de nombreux. Alors cette crise se poursuit et le chef Alvin Fiddler a appelé le gouvernement fédéral à agir dans les plus brefs délais. Vous trouverez cette nouvelle dans le fil anglophone de la Canadian Press. Suicides of two 12-year-olds highlight need for federal action. Sur le portail français rue89.fr, on a un article un petit peu insolite, mais néanmoins pertinent et qui pourrait être indicateur de l'avenir de la politique américaine. Dans cet article, Rue 89 s'intéresse au fondateur de Facebook, Zuckerberg, Mark Zuckerberg, qui, semble-t-il, est de plus en plus intéressé par la politique. Il y a de nombreux indices qui laissent penser que le fondateur de Facebook se lancera un jour, d'ici quelques années, en politique active. Alors, le premier indice, c'est que le mois dernier, Mark Zuckerberg a réussi à convaincre le CA, de l'entreprise, donc le conseil d'administration de l'entreprise, de le laisser aux commandes de l'entreprise, même s'il prenait un congé de 2 ans pour servir le gouvernement américain. Deuxième indice, le jour de Noël, il y a 2 semaines, alors qu'il s'était toujours assez vigoureusement revendiqué comme athée, Mark Zuckerberg a publié une entrée de blog pour souhaiter un joyeux Noël et un joyeux Hanouka à tout le monde, alors à tous ses abonnés et à tous les membres de Facebook, et un commentateur lui a demandé s'il était toujours athée. Et Mark Zuckerberg a dit qu'il avait réfléchi au cours des dernières années et en était arrivé à la conclusion que la religion était très importante. Alors, on le sait, la religion, c'est primordial pour remporter des courses électorales aux États-Unis. C'est vraiment au cœur du débat politique chez nos voisins du Sud. Quatrième indice que Mark Zuckerberg a l'intention de se lancer en politique, c'est le mois de mars 2013. En mars 2013, oui, il avait fondé un genre de think tank, un groupe de réflexion qui s'intéresse notamment aux questions de l'immigration. Il y a vraiment des sujets qui lui tiennent à cœur et il a fondé un genre d'organisme à but non lucratif qui servira plus tard, peut-être, de véhicule pour ces démarches électorales. Alors, Mark Zuckerberg, qui, comme d'autres milliardaires d'ailleurs, s'intéresse de vivement à la politique. Alors, ce sera à suivre. Autrement, dans le journal Les Affaires, on apprend que le fabricant de textiles Gildan rachète des actifs d'American Apparel. Les vêtements de sport Gildan a annoncé mardi qu'il avait remporté l'encan supervisé par le tribunal afin de faire l'acquisition de la marque American Apparel ainsi que de certains actifs d'American Apparel. Alors, Gildan, c'est une société montréalaise, une société canadienne, et American Apparel a aussi des racines montréalaises puisque son fondateur était montréalais. Dove Cherney, qui est une personnalité haute en couleur, qui a perdu le contrôle de sa compagnie il y a quelques années. Il l'avait vraiment porté très haut. Il l'avait démarré à partir de rien et en avait fait une multinationale. Mais cette compagnie n'est plus l'ombre de ce qu'elle était à son sommet il y a quelques années. Et on en a la confirmation aujourd'hui avec ce rachat de la part de Gildan, une société de Montréal. Autrement, une nouvelle insolite signalée par un collègue, une nouvelle qui concerne la langue française, et ça ne nous vient pas du Canada, comme c'est souvent le cas pour les nouvelles de linguistique dans le débrief. Ça nous vient de France. C'est une question qui fait débat. Faut-il appeler le pain au chocolat chocolatine ou encore pain au chocolat? Il faut savoir que de nombreux Français appellent le pain au chocolat chocolatine latine dans le sud-ouest. Donc, c'est un article du Parisien que je vous propose pour refermer ce bloc nouvelle du jour. Le débat laissera sans doute de marbre un nordiste ou un Parisien, mais il fait beaucoup Mais il fait couler beaucoup d'encre dans le sud-ouest. 5 lycéens de Montauban ont écrit au chef de l'État pour que le mot « chocolatine » utilisé dans le sud-ouest pour désigner un pain au chocolat soit désormais inscrit dans le dictionnaire. Conscient que leur requête avait peu de chances de devenir une priorité pour François Hollande, ils ont aussi envoyé une lettre à l'Académie française. Le mot « chocolatine », disent-ils, est utilisé par un quart de la population française, sans compter le Québec et les autres régions francophones où on emploie ce terme, soit 16 750 000 personnes, ont plaidé les étudiants du secondaire qui écrivaient au chef de l'État français, donc pour que le mot chocolatine apparaisse désormais dans le dictionnaire. On leur souhaite bonne chance. Espérons que l'Académie française, à qui ils ont également écrit, répondra à l'appel. Pour le moment, le mot chocolatine n'est pas encore reconnu. On s'arrête quelques instants en musique. Je vous propose d'écouter une autre pièce du Rémi Bolduc Jazz Ensemble qui sera à Victoria le 21 janvier. On écoute la pièce intitulée Alléluia et on se retrouve pour les éditos dans quelques minutes. Vous êtes à l'écoute du débrief dans à l'antenne de CILS FM 107,9. On a actuellement 1 degré au centre-ville, ça demeure très froid, moins 7 cette nuit, on se réveille demain avec le soleil, ce sera 1 degré maximum en cours de journée. C'est le moment de passer à la revue de presse des éditoriaux. J'ai retenu un texte en particulier sur le portail de Mediapart, ça concerne la nobelisée Aung San Suu Kyi en Birmanie. Le titre de cet article paru dans Mediapart, Birmanie, l'honneur perdu d'Aung San Suu Kyi. Hier, icône révérée de la démocratie et des droits de l'homme, le prix Nobel de la paix 1991 partage désormais le pouvoir avec ses anciens geôliers militaires. Elle est inactive et silencieuse au nom de la raison d'État et de la solidarité avec la majorité bouddhiste face aux violences qu'inflige l'armée à la minorité musulmane de Rohingya. L'exercice du pouvoir peut être un révélateur cruel pour les anciens opposants devenus dirigeants, même et peut-être surtout s'ils ont été l'objet d'un véritable culte. C'est le cas de Aung San Suu Kyi, lauréate en 1991 du prix Nobel de la paix pour son engagement en faveur de la démocratie et des droits de l'homme en Birmanie. Elle est accusée un quart de siècle plus tard par 11 autres Nobel de la paix et une douzaine de personnalités internationales. Elle est accusée de passivité, sinon de complicité, par le silence et l'inaction dans la tragédie humaine, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité dont est victime l'ethnie musulmane Rohingya dans le nord-ouest du pays, donc dans le nord-ouest de la Birmanie. Dans une lettre au président du Conseil de sécurité des Nations Unies datée du 29 décembre 2016, où elle demande à l'ONU d'inscrire d'urgence cette crise à l'ordre du jour de ses travaux, ses personnalités nobelisées et d'autres observateurs de la scène internationale reprochent à Aung San Suu Kyi, qui exerce aujourd'hui de facto les fonctions de première ministre, de n'avoir pas pris, malgré les appels répéter une seule initiative pour défendre les droits de la minorité Rohingya en leur assurant la citoyenneté. Madame Aung San Suu Kyi, souligne-t-il, est la dirigeante, elle a la responsabilité primordiale de diriger et de faire avec courage, humanité et compassion. Courage, humanité et compassion, c'étaient les qualités mêmes que les autres Nobel et l'ensemble des observateurs de la cause des droits de l'homme reconnaissaient à la dame de Rangoon, comme on l'appelait, pendant les quelques 30 années de lutte inlassable pour la démocratie, lutte à laquelle elle a sacrifié sa liberté, sa santé et jusqu'à sa famille. Pourquoi l'icône révérée, inflexible au point de résister à 15 ans d'assignation à résidence dans sa vieille demeure décrépite, se révèle-t-elle aujourd'hui incapable, une fois au pouvoir, de fidélité à ses idéaux démocratiques et à ses engagements de dissidente? Donc c'est les questions que pose cet article paru dans le portail Mediapart en date d'aujourd'hui. C'est sous la plume de René Bachmann. Birmanie, l'honneur perdu d'Aung San Suu Kyi. Je vous encourage à en faire la lecture. On va se rendre bientôt à l'interview du jour. Je vous le disais en début d'émission, j'ai le privilège de m'entretenir aujourd'hui avec Rémi Bolduc, qui est à la tête du quatuor Rémi Bolduc Quartet, oui, l'ensemble de jazz Rémi Bolduc, et il me parle du concert qu'il va donner le 21 janvier, le samedi 21 janvier à Juvik. On aura tous les détails dans quelques instants. Écoutez CILS FM 107,9 à Victoria. Merci d'être à l'écoute. On arrive en fin d'émission. C'est le moment de l'interview du jour et j'ai le privilège de m'entretenir aujourd'hui au bout du fil avec Rémi Bolduc. C'est un jazzman qui est à la tête du Rémi Bolduc Jazz Ensemble. Bonjour, monsieur Bolduc.
Bonjour.
C'est de la grande visite. On est très heureux. Tous les amateurs de jazz sont très heureux d'apprendre votre passage à Victoria dans quelques jours. Vous allez axer ce spectacle, ce concert, sur un hommage à Dave Brubeck. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, exactement. C'est un hommage. Ça fait quand même un bout de temps qu'on a enregistré. Oui, mon Dieu, ça fait certainement 2 années. L'année dernière, à la même période, on était à Vancouver.
Oui.
Et puis, on avait fait une tournée en Colombie-Britannique avec plusieurs villes, Nelson, Whistler, etc.
Oui.
Et puis, de cette année, on retourne, fait pour une autre tournée. Et puis, on est très content d'aller à Victoria, parce que la dernière fois, on n'avait plus d'arrêt à Victoria.
Oui.
On est prêt.
D'accord. Alors, vous prenez le traversier et vous venez à Victoria. C'est une excellente nouvelle. Est-ce qu'on peut savoir la composition de votre formation, de votre ensemble de jazz?
Oui, on est un quatuor. Au piano, c'est François Bourassa, qui est un très bon pianiste au
oui.
Québec. Il travaille beaucoup. Peut-être que vous en avez entendu parler. Il a déjà gagné un Juno, ça.
Oui,
et
oui.
Et puis, c'est ça. Puis le Rémi Bauduc, jazz ensemble, finalement, le noyau du groupe. C'est Dave Lang à la batterie et Fraser Hollins à la contrebasse. Et puis, ça fait 20 ans qu'on joue ensemble. Donc, on a différents projets. Et puis, ce projet-là en particulier, l'hommage à Dave Boubeck, c'est avec François. On a des fois d'autres projets, ça va être un autre pianiste ou d'autres invités. Mais pour ce projet-là, ça fait quand même beaucoup de concerts qu'on fait. On est toujours avec François pour faire ça.
Alors, est-ce que c'est uniquement un concert hommage à Boubeck ou est-ce que vous allez insérer ici et là des pièces originales?
Je vais insérer quelques pièces originales, mais c'est quand même pour la plus grande, la majorité du répertoire de la musique de Dave Boubeck. Et puis réarranger un peu, mais quand même de la musique un peu de d'album Time Out, Further Time Out, puis il y a des aussi d'autres pièces qu'il a composées, In Your Own Sweet Way, par exemple, qui est un standard qui est joué par beaucoup de musiciens qui sont pas sur ces albums-là.
Oui.
Et puis c'est un bon concert, comment dire, on a fait, je sais pas moi, ça fait 40 fois au moins qu'on le présente. Et puis, souvent, ça le comble. À Vancouver, c'était plein, la dernière fois qu'on est allé. Les gens aiment bien, évidemment, la musique de Boubeck.
Oui.
En même temps, ça nous permet, nous et eux, on se découvre mutuellement. Ils découvrent mon groupe et les musiciens du groupe. Des fois, évidemment, on est moins connus que Dave Boubeck. Mais ça fait que, donc, ça permet aux gens, comme là, cette année, on retourne dans certaines villes, on va faire plutôt des compositions, un autre projet avec le même groupe, vu qu'on est allé l'an dernier avec la musique de Boubeck.
L'intérêt aussi, j'imagine, c'est de réinterpréter la musique de Boubeck, c'est de proposer de nouvelles lectures, de nouveaux échos.
Ouais, ben évidemment, nous, on est quand même, on fait du jazz, et puis on n'essaie pas de sonner quand même. Moi, j'essaie pas de sonner au saxophone comme Paul Desmond, puis François Bourassa n'essaie pas de sonner comme Dave Boubeck. On a nos personnalités déjà quand même, on fait longtemps qu'on joue, donc on est des musiciens matures. Et puis on joue notre style, mais avec le répertoire de Dave Boubeck. Et puis donc, puis il y a beaucoup d'improvisation. Donc évidemment, les thèmes, les gens reconnaissent les thèmes. Les thèmes sont très reconnaissables. Et ensuite, on improvise. Donc les improvisations, c'est notre touche personnelle au concert.
Alors pourquoi Boubeck plutôt qu'un autre monument du jazz?
Ben dans le cas de Boubeck, c'est que moi, j'ai dans les années 90. Même avant, mais dans les années 90, j'étais à New York, j'étudiais à l'époque avec Steve Coleman. J'ai joué avec des musiciens là-bas. On jouait de la musique, qui avait des mesures composées, on appelle. Je ne veux pas trop tomber dans la technique, mais je pense que même beaucoup de gens savent que Paul Desmond a composé Take Five. Et puis Take Five, c'est une pièce en 5-4. Et puis Dave Boubeck, Rondo à la Turque, est en 9-4. C'est 9-8. Il y a des pièces comme ça qui ont des... on appelle ça des time signatures, odd meters. Et puis moi, j'ai beaucoup étudié ça dans la musique plus moderne. Mais Dave Boubeck, c'est un des premiers. Il y en a qui le faisaient, mais c'est vraiment un des premiers qui a exploité cet aspect-là de la musique avec son album Time Out en 1959. Fait que moi, c'est un peu un retour aux sources par rapport à toute cette musique-là que j'étudiais, finalement, d'aller chercher ce répertoire-là. Donc, ça me parle beaucoup. J'ai fait un album avant le Boubeck qui s'appelle Random Masters, qui est un projet de composition, mais avec beaucoup de ces genres de mesures-là. Ça fait que, par la suite, j'ai dit, puis en même temps, je voulais jouer avec François Bourassa aussi, faire un projet avec lui, quelque chose de particulier. J'ai dit, ça serait fun de faire cette musique-là ensemble. Puis François, il peut jouer moderne aussi. Tu sais, des fois, il joue dans le piano. Il y a un aspect là-dedans, tu sais. Il y a une influence de musique classique dans Boubeck, qui est là aussi. Ça fait que c'est comme un mélange de tout ça.
Vous avez mentionné qu'il y aurait quelques pièces originales en minorité. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ces pièces que vous allez proposer à l'auditoire du 21 janvier?
Oui. Ben, tu sais, des fois, quand je fais le concert, avec ce projet-là. Je fais une blague au début, je dis « OK, finalement, on va jouer toutes mes compositions. » Le monde rit parce qu'évidemment, ils veulent absolument entendre Take Five. Puis quand on joue Take Five, on a terminé, je dis souvent « Ah, c'était une de mes compositions. » Le monde trouve ça tellement drôle. Puis là, finalement, on en joue une des miennes. Puis là, je dis « C'était une de mes compositions. » Il rit « Non, non, j'y ai pas. C'était une de mes compositions. » Puis les pièces qu'on fait, que j'ai composées, sont un peu dans le style un peu plus moderne, mais quand même une pièce en 5/4, par exemple, qui est assez lyrique, puis qui va s'intégrer dans le programme. Ce que j'ai à dire, c'est une composition que j'ai enregistrée, par exemple, qu'on joue, puis d'autres qu'on n'a pas enregistrées, mais l'idée, c'est de faire connaître aussi du même coup aux gens notre répertoire à nous. Il y a des pièces qu'on fait, nos compositions, dans l'intérieur de tout ça.
Bien sûr. Et donc, j'ai remarqué que vous aviez un site web qui a l'air très étoffé, bien documenté, avec beaucoup d'informations. Est-ce qu'on y trouve également des morceaux de musique? Est-ce qu'on peut faire connaissance avec votre voix, votre style?
Oui. Il s'agit d'aller sur le site. Ben, s'il y a des musiciens, il y a des partitions. J'ai mis beaucoup de mes arrangements en ligne, tout ça. Et puis aussi, il y a des liens vidéo. Mais sur YouTube, on peut entendre beaucoup de ma musique en ligne, de mes compositions aussi, de tous les projets. J'ai plein d'histoires, au moins 100 vidéos en ligne. Et on peut des cours aussi en ligne. On peut voir des transcriptions que je fais, que je joue. Il y a plein d'affaires. Je suis assez actif à ce niveau-là. Je partage... C'est comme un partage gratuit. Là. C'est de partager l'information, de donner aux gens l'envie, l'inspiration de connaître le jazz aussi. Ils sont des musiciens, de partager des connaissances. Moi, j'enseigne à l'Université McGill. Mm-hmm. Ça fait longtemps, donc je suis assez spécialisé dans l'enseignement d'improvisation. Ça fait que ça me fait plaisir, moi, de partager ça avec les gens. Ça fait que le site web donne tes liens d'eau. Ouais. Facebook aussi, j'ai beaucoup d'informations qui passent là.
D'accord. Alors, remyboldyk.com, pour ne pas le nommer, c'est un site très bien fait. Et les auditeurs, les gens qui comptent se rendre au concert pourraient peut-être passer par là, histoire de se mettre dans l'esprit de la musique qui sera présentée le 21.
Ouais. Ben oui, parce qu'il y a aussi des vidéos de la musique de Brubeck qu'on jouait là. Toutes les pièces sont là. En ligne, d'un concert qu'on a fait. Les improvisations vont être différentes, mais ils vont voir un peu comment ça se fait, là, comment qu'on présente ça. Puis là-bas, j'ai jamais joué encore là-bas. Moi, j'avais joué chez Herman, qui était le club de jazz. À
Victoria. Oui, au centre-ville.
Là-bas, je pense que c'est une assez grande salle. Là. Ça fait que
c'est un auditorium. Moi,
ouais, c'est ça. C'est ça. Sur ma feuille de route, ça marque 1043 sièges. Wow. Fait que j'invite tout le monde à venir.
C'est ben oui, bien. On va remplir ça.
On ne peut pas être tout seul.
Et puisque l'année vient tout juste de débuter, je m'en voudrais de terminer sans vous demander quels sont vos projets pour les mois à venir.
Ouais. Ben là, je viens d'enregistrer le 14 décembre un album qui s'appelle Swinging with Oscar. Ça, c'est on fait la musique de Oscar Peterson. Et puis c'est avec un autre pianiste, Story Butler. On a plusieurs tournées. On part en tournée en Ontario, dans l'Est canadien. On tourne au Québec. Ça fait que moi, quand je reviens, on part, nous, de presque 20 jours là, avec... on va à Victoria, mais on fait beaucoup de places autour. On fait South Spring, Tofino. On est à Washington, D.C. avant. Puis on s'en va dans le Nord aussi, Vancouver, etc. Et puis, mais en revenant, on a ces tournées-là. Puis aussi, au mois de mars, j'enregistre à Edmonton un album live. Le 17 et 18 mars, on fait deux soirs au Yardbird Suite. Et puis d'abord, c'est de la musique. Mon projet, c'est des compositions cette fois-là. Ça s'appelle Sax Zenith, puis c'est avec des saxophonistes, dont il y a Phil Dwyer, qui va être là au tenor, P.J. Perry à l'alto, Kirk McDonald et Kelly Jefferson au tenor également. Donc, c'est cinq saxophonistes, moi, que je considère les meilleurs au pays, avec moi inclus. On est comme cinq amis. Donc dans les bons, il y a d'autres joueurs. Là. Il y a Mike Murley, Pata Barbara, Yannick Rieu. Il y en a des bons joueurs, mais Mike Carlin. Il y a des bons joueurs, mais ça dit dans des joueurs que je voulais réunir. On va faire un album. Ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Donc, le 17-18 mars à Edmonton, en Alberta. Sinon, on est en tournée. On retourne à BC encore au mois de mai. Power River, on s'en va à Cranbrook. Ça fait qu'on est... je vais trois fois cette année. Je retourne encore à l'automne à nos tournées. Puis, je vais trois fois cette année. Ça fait qu'on... on tourne presque plus à BC qu'ailleurs, n'importe où au Canada.
Ah bon? Est-ce qu'il y a un bassin d'amateurs de jazz plus important ici dans la province, selon vous?
Ben, ça a l'air un peu.
On dirait?
Nous, on joue dans les salles où on joue. Nelson, des places comme ça,
ouais.
C'est pas des, il y a pas des grandes populations. Il y avait 400 personnes dans la salle, on me disait, donc, c'est pas tout le monde qui était là, puis je dis,
ouais.
C'était ça, puis le monde, il y a vraiment des enthousiastes du jazz.
Oui.
C'est évidemment, c'est superbe. Nous, ici, t'as moins 25. Il fait quand même un peu moins froid chez vous. Hein?
Oui, on est autour de zéro, là. Vous allez pouvoir vous décontracter un petit peu en arrivant à l'aéroport. Ben, un grand merci.
C'est tellement beau,
Oui, c'est très beau. J'ai bien hâte d'avoir des échos de ce concert-là. J'essaierai de m'y rendre moi-même. Je rappelle aux auditeurs que c'est le 21 janvier au University Center. Pour obtenir les billets, on se rend sur tickets.uvic.ca, donc tickets.uvic.ca le 21 janvier. Rémi Bolduc, un grand merci et à très bientôt.
Merci beaucoup, Alexis.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Rémi Bolduc à l'antenne de CLS FM 107,9 dans l'émission Le Débrief. 16h56, encore quelques minutes à cette émission. On va se tourner vers la météo une dernière fois. On a actuellement 1 degré au centre-ville de Victoria. Le mercure va descendre nettement sous 0 ce soir et cette nuit. On atteindra moins 7 en cours de soirée et en cours de nuit. Le vent a cessé, fort heureusement. L'alerte de vent a été levée. Donc, ces vents que nous avait annoncé Environnement Canada se sont en effet produits hier. Et cette alerte n'est plus en vigueur. Et demain, 1 degré en cours de journée avec le soleil. Donc, ça demeure froid. Moins 2 vendredi 13 janvier. Et des précipitations pour le week-end, samedi 14 janvier et dimanche 15 janvier. Maximum de 4 degrés et 5 degrés respectivement. Donc pour le week-end, ce sera peut-être un cocktail neige-pluie. Les maximums seront légèrement au-dessus de zéro. Ça se précisera. Je vous invite à consulter le portail d'Environnement Canada à l'adresse météo.gc.ca. Donc voilà, c'est déjà tout pour le débrief. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À demain. Excellente soirée.
Écoutez CLS FM, l'unique radio communautaire francophone de la Colombie-Britannique.